Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 dans le 9 pour parler de cette nouvelle classification de la prison Winter qui devient édifice patrimonial. On reçoit le directeur général du Musée d'histoire de Sherbrooke, M. David Lacoste. Bon matin.
Bonjour.
Allons-y d'entrée de jeu. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce nouveau classement-là et quelle importance ça revêt pour la ville de Sherbrooke?
En fait, bon, oui, le classement, on est dans le jargon citation, classement, protection. Donc, c'est la plus grande protection que le gouvernement peut donner pour un édifice sur son territoire. Donc, dans le cas de la prison Winter, bien, le gouvernement, le ministère de la Culture vient classer l'édifice, vient le reconnaître comme un édifice patrimonial qui a une importance locale, importance nationale, importance pour que la société, pour comprendre l'évolution judiciaire au Québec et dans cette période-là, mais aussi pour le style architectural. Donc, il y a plein d'éléments qui ont fait en sorte que le bâtiment maintenant est protégé par la loi québécoise, donc comme un bien national.
Le processus de demande a été extrêmement long. Ça a pris 30 ans d'avoir cette réponse-là. Pouvez-vous nous parler un peu des étapes clés de cette longue démarche-là?
Ben, en fait, oui, comme vous le dites, ça a pris plus de 30 ans. En fait, il faut comprendre que la prison Winter a été en opération, en fait, a accueilli son premier détenu en 1869 et a fermé en 1990. Donc, près de 120 ans plus tard. En ayant peu de transformations internes, en 90, au moment où on décide de fermer la prison Winter, ce sont des bénévoles qui vont prendre le relais pour la gestion de l'édifice. Le gouvernement du Québec le vend pour $1 en disant « Occupez-vous-en mm-hmm. ». D'une certaine façon, là, c'est aussi simple que ça. Et c'est là que la société de sauvegarde, qui est l'OBNL en question, va faire une demande de classement pour protéger l'édifice parce que la société de sauvegarde et la société Sherbrooke de façon générale juge que ce bâtiment-là a une forte valeur. Donc, demande qui est déposée dans les années 90, la raison pourquoi ça a pris autant de temps, c'est que le gouvernement ne voulait pas classer l'édifice s'il n'y avait pas de projet intérieur. Donc, on ne veut pas classer un édifice qui va être abandonné, puis au final, il est protégé par la loi, mais personne ne s'en occupe. Donc, la société de sauvegarde a fait tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle peut encore pour entretenir l'édifice, le maintenir le chauffage minimum, mais l'entretien du lieu également. Là, maintenant, le classement vient un peu leur donner une tape dans le dos pour dire félicitations d'avoir maintenu ce site-là. Maintenant, on le protège parce que le musée, nous, on a un projet culturel et muséal dans la prison Winter qu'on porte et qu'on a déposé au ministère de la Culture. Donc, un allait un peu avec l'autre. Et il y a eu une grande vague de classements dans la dernière année. Et Winter, on est chanceux, ça en fait partie.
Donc, on fait partie du lot, voilà. Puis, si je ne me trompe pas, il y avait quand même déjà possibilité de visiter, ou en tout cas à quelques occasions peut-être?
Il y a eu des visites dans les années 90. Okay. Depuis le tournant des années 2000, la régie du bâtiment a condamné l'édifice parce qu'il ne répond plus aux normes. En fait, les issues sont pas conformes. Il peut avoir des problèmes. Il n'y a pas de problème de structure, mais il peut avoir des problèmes à l'intérieur. Ça ne répond pas à plein de normes du bâtiment actuel. Donc, on peut visiter la prison pour des projets de mise en valeur. C'est-à-dire okay. que moi, je peux y aller avec des partenaires potentiels. L'école d'été, par exemple, de l'Université de Sherbrooke, y a été pour faire l'étude de la prison, tout le volet carcéral avec les détenus, mais avec les anciens détenus, avec les anciens gardiens, etc. Donc, ce qui met en valeur le lieu, ça c'est acceptable. Mm-hmm. Mais d'aujourd'hui, là, de dire, OK, on fait un groupe organisé, puis le musée, on charge, puis on va vous faire une visite guidée. Ça, on peut pas, puis c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut faire. Mais pour ça, il faut mettre l'édifice aux normes. Et c'est un projet de 15 millions, mettre l'édifice aux normes, réparer la toiture, climatisation, aération, refaire la peinture intérieure, s'assurer qu'il n'y a personne qui va s'enfermer dans une cellule par accident. Bon, fait que ça, c'est assez large, mais ça fait en sorte que la facture monte aussi. Donc, maintenant, le classement vient un peu faciliter, si je peux dire, l'accès vers le financement pour le projet culturel et muséal.
Mm-hmm. J'ai mon collègue Sarin autour de la table qui avait une petite question pour vous aussi.
Bien, merci, M. Lacoste. Vous avez déjà pas mal répondu à la question que j'étais en train de préparer, donc je vais essayer de la reformuler en même temps de parler. Donc, vous avez parlé notamment des dépenses qui étaient associées au coût de 15 millions de dollars pour les rénovations de la prison, du toit, de la toiture, ainsi de suite, des installations sanitaires. On peut comprendre aussi que certains aspects du bâtiment n'ont pas été utilisés depuis les années 90, là, si je comprends bien ici. Donc, je me demandais aussi, ça va être quoi les projets? Donc, vous avez parlé de visite en groupe. Est-ce que ça va être quelque chose qui était similaire que vous avez déjà effectué avec les groupes étudiants d'été de l'Université de Sherbrooke? Ça va être d'autres volets aussi, d'un volet plus historique sur les anciens détenus aussi?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, nous, ce que l'école d'été a fait, on est bien content parce qu'ils sont venus donner de la documentation. Ils sont venus enrichir l'histoire du lieu. Donc, avec des entrevues, avec des visites, et en cherchant dans le registre d'écrou, des entrées et sorties de la prison, en regardant également les débooks de police pour aller voir pourquoi les gens se faisaient arrêter. Ça c'est venu documenter. Ça nous aide. Nous, on a travaillé aussi dans les dernières années sur le bâtiment en soi, son historique du bâti, mais aussi l'historique intérieur, l'évolution carcérale, si on peut dire, des 120 ans de la prison. Comme vous dites, le bâtiment a été peu utilisé depuis 1990. Donc, les cellules sont les mêmes. C'est des cellules de pour les plus petites, de 3 pieds par 8 pieds. C'est plus petit qu'un lit simple. Donc, c'est ça que nous, on veut montrer aux gens. Mmh. Et c'est ça que notre étude de marché démontre aussi. Les gens veulent d'abord et avant tout rentrer puis venir voir la sévérité et l'insalubrité de Winter, qui ne s'est pas aidé dans les 30 dernières années. Là, ça ne le cachera pas. Mais cette prison-là a été reconnue comme insalubre et sévère. Donc, les gens sont curieux. Donc, on veut, nous, en faire un circuit muséal intérieur, principalement avec des groupes, parce que ça va mieux. Puis là, on peut se poser des questions d'un groupe, un individu à l'autre dans un groupe, plutôt que de laisser les personnes y aller de façon libre. C'est plus facile en groupe. Et en fait, on va avoir plus de réponses si on y va en groupe, en visite guidée, que si on y allait individuellement. Oui. Ah oui, OK, vous laissez-le les petites. Oui, OK. Mais de comprendre pourquoi qu'il est petite, combien de temps les personnes passent dans cette cellule-là, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi la relation avec les collègues détenus. Donc, nous, on a ces informations-là. Donc, on veut l'offrir en visite guidée. On a fait l'étude de marché qui démontre qu'on a un potentiel de visiteurs de 35 à 40 000 visiteurs par année, ce qui est quand même exceptionnel pour Sherbrooke. Mm-hmm. Des lieux de cette ampleur-là, il y en a un présentement, c'est le Musée de la nature et des sciences. Sinon, on est dans l'événementiel. La fête du lac va attirer son 100, 150 000, 200 000 c'est visiteurs, vrai. Mais on est dans un événement. Alors qu'un lieu culturel ouvert à l'année, on arrive là avec la prison Winter avec un produit d'appel, un produit où les gens de la Rive-Sud qui n'en ont pas de prison comme ça à côté de chez eux vont pouvoir venir ici pour venir voir à Sherbrooke à quoi ressemblait notre vieille prison.
Mm-hmm. Ben, elle est littéralement en plein milieu de la ville pour être moi-même un ancien élève de plein soleil qui était au 300 de Montréal, qui est littéralement la porte à côté. On avait la vue sur ce bâtiment-là. Niveau historique, est-ce qu'il y a déjà eu des pourparlers pour peut-être la démolir?
Il n'y a pas eu de pourparlers pour la démolir parce que la ville était déjà en processus de citer ou de protéger au niveau municipal le quartier judiciaire au complet. L'ancien district judiciaire, si vous connaissez le secteur, c'est le bâtiment maintenant du Sherbrooke Hussar, qui est l'ancien palais de justice de Sherbrooke. On a à côté la maison du juge. Si vous avez étudié à plein soleil, vous savez peut-être que ce lieu-là, c'est la prison William qui était là avant, donc l'ancêtre de la prison Winter qui était exactement à cet endroit-là. Donc, il y a un quartier judiciaire qui s'est dessiné à Sherbrooke, assez exceptionnel, exceptionnel parce qu'au Québec, des quartiers judiciaires pensés comme ça, là, la maison du juge, la rue courte, avec des maisons de notaires et avocats autour, il y en a à peu près pas au Québec qui ont un périmètre aussi restreint de tout la loi et l'ordre là, dans un carré assez petit. Là.
Ben c'est, moi j'avais en tête l'ancien YMCA, mais vous voyez, je savais même pas que c'était une ancienne prison aussi. Mais bon, voilà, on l'a
dit. C'est pas le même édifice.
OK, oui. En fait, vous l'aviez dit, c'était en activité jusqu'aux années 1990. Il y a eu des hommes, des femmes et même des enfants qui sont passés par la prison Winter. En quoi cette histoire, parfois difficile, fait-elle partie intégrante de l'histoire de la ville de Sherbrooke, vous diriez?
Ben, en fait, elle s'inscrit dans la grande histoire. S'il n'y avait pas eu le district judiciaire ou le chef-lieu du district judiciaire ici à Sherbrooke, on ne se le cachera pas, le Sherbrooke ressemblerait pas à ce que Sherbrooke est aujourd'hui. En 1823, là, au moment où on dit que c'est Sherbrooke qui va être le chef-lieu judiciaire, ça prend des installations. Si on avait décidé que c'était Lennoxville, North Attleigh, Richmond, même Stanstead, qui étaient toutes plus populeuses que Sherbrooke autour de 1820, ben ces installations-là et toute l'élite de robe, si on peut dire, là, notaire, avocat, juge, se serait installée dans une autre municipalité à côté, puis le boom social et économique aurait été vers ces autres municipalités-là. Donc, déjà en partant, ben, c'est avant Winter, mais ça reste que faut le comprendre comme ça. Dans l'importance, en fait, on va parler plus de l'importance sociale parce que qui était incarcéré, pourquoi, comment. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes d'itinérance. Vers 1860, 70, 80, on règle l'itinérance d'une bien autre façon, puis qui est pas une façon que je partage, là, mais tous les gens qui dérangent l'ordre public, ben on les arrête, on les amène en prison. Donc, on a des gens qui sont arrêtés pour vagabondage, pour désordre public, pour ivrognerie. Quelqu'un qui nous a raconté que son grand-père avait été là pour refus de traitement de maladie vénérienne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est arrêté pour ça. C'est intéressant de comprendre comment notre société a évolué à travers le judiciaire, à travers un bâtiment d'exception qui peut aussi nous permettre de parler d'histoire, de juridique, d'architecture, de sociaux. Donc, on est dans un grand champ d'expertise ou un grand champ d'intérêts différents selon les intérêts de chacun.
C'est drôle parce que étant Dufferin et Frontenac étant à proximité, l'ancien hôtel Magog qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui ce qui est drôle, c'est que cet hôtel-là était tellement populaire à cette époque-là qu'il était à proximité de ce quartier judiciaire-là. Mais c'est vraiment, en fait, le centre-ville de Sherbrooke qui est vraiment très intéressant, c'est le cas de le dire. En tant que directeur général, quel rôle voyez-vous en conclusion pour la prison Winter, peut-être dans l'éducation publique de l'histoire locale?
C'est sûr que nous, on veut l'ouvrir au public. Donc, bien évidemment, au public, ça comprend les visiteurs extérieurs, mais ça comprend aussi les groupes scolaires, puis ça comprend les groupes scolaires de tous les niveaux. Là. Bien sûr, avec un enfant du primaire, c'est peut-être pas la même expérience à une prison.
Oui.
mais à partir du secondaire, à partir du cégep, université, quand on a des cours où on a une vue plus globale, là, on peut intégrer et comprendre, comme je disais tantôt, la société à travers la prison. Donc, ça devient intéressant pour des groupes de différents âges, y compris des groupes adultes et des visiteurs. Il y a des amateurs de prison là, qui font tous bon pour aller visiter des prisons. Ben, on en aura une ici. Mais c'est ça, dans un optique très, très large d'éducation, on vient comprendre notre société par un lieu carcéral, ce qui est quand même exceptionnel. Dans un rayon de 150 km, on va avoir Trois-Rivières qui a une prison où on peut visiter. Par contre, notre prison, j'ai fait les deux, notre prison est beaucoup plus sévère. Il faut s'en vanter. Sinon, Ottawa Jail, qui est une auberge de jeunesse, qui est plus qu'à 150 km. Mais on a des demandes de venir voir à l'intérieur de Winter. Ce qui reste, c'est de mettre le bâtiment aux normes pour qu'on puisse rentrer avec les groupes et faire les visites.
Alors, à venir, dans les prochaines années, certainement, cette visite de la prison Winter en plein centre-ville de Sherbrooke. David Lacoste, directeur général du Musée d'histoire de Sherbrooke, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ça fait plaisir, merci.
On fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ 88.3 et on vous revient avec un autre sujet d'actualité de ce jour.